Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h41, qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, et c'est la rébellion en cuisine qui s'installe sur le front des restrictions sanitaires.
Et oui, c'est à la une de la Dépêche du Midi. Faute de visibilité, plusieurs dizaines de restaurants ont bravé l'interdit et accueilli des clients hier malgré les sanctions promises. C'est le cas notamment en Ariège, chez Restaurants qui se rebiffent, titre également Midi Libre. Certains ont décidé d'ouvrir leur établissement en signe de protestation, d'autres tentent de faire leur beurre clandestinement. C'est ce que raconte Midi Libre, alors que Bruno Le Maire avait pourtant remis les pendules à l'heure en annonçant des sanctions. Le Figaro, de son côté, est au chevet aujourd'hui du transport aérien, un secteur qui s'enfonce dans une crise historique. Le trafic européen a en effet reculé de 66% pour le mois de janvier. L'an dernier, ce sont 14 compagnies qui avaient fait faillite et la liste pourrait s'allonger dans les prochains mois. Les transporteurs vont donc tenter de réduire les coûts, nous dit le Figaro, tout en espérant des aides financières de leurs actionnaires ou des pouvoirs publics. Dossier complet donc à retrouver dans le Figaro aujourd'hui.
Oui, et en ce qui concerne l'épidémie, le variant anglais détecté alors un peu partout en France, mais notamment aussi en Auvergne, c'est à la une de la montagne.
Bah oui, ça y est, la mutation a été détectée pour une dizaine de patients au minimum en Auvergne dans les prélèvements qui arrivent au laboratoire du CHU de Clermont-Ferrand. Conséquence, des dépistages massifs vont se dérouler tout au long de cette semaine dans le Puy-de-Dôme, en ciblant bien sûr les quartiers et les communes où la présence du variant anglais est suspectée. Pour ce qui est du vaccin contre le Covid, on apprend que des doses pourraient être produites à Hydron, dans les Pyrénées-Atlantiques, bientôt. Information de l'éclair des Pyrénées. Le groupe Fareva a en effet été retenu pour produire le vaccin allemand CureVac qui fait actuellement l'objet d'essais cliniques.
Oui, et puis il y a un prénom et d'importants dégâts à la une de la République des Pyrénées comme quelques journaux ce matin, et on en parle beaucoup sur Sud Radio.
Oui, même la situation, on le disait ce matin, s'améliore un peu, tant mieux. En tout cas, la tempête Justine a frappé fort en Béarn et on le constate malheureusement avec cette photo à la une, celle de la tour féodale qui n'a pas résisté à Soldes-Navailles, des rafales de plus de 100 km/h qui ont déferlé sur les Pyrénées-Atlantiques. Et puis pendant ce temps-là, des chaises et des bancs au milieu de l'eau. Ça, c'est pour la une du Populaire du Centre. Les crues dans le Limousin, de nombreux cours d'eau, notamment la Corrèze, la Dordogne, la Creuse, la Vienne, sont sortis de leur lit, occasionnant des inondations dans la Haute-Vienne à Saint-Léonard-de-Noblat. On pourrait atteindre les niveaux de 2 minutes, voire de 1982. Enfin, la Gironde au bord de la noyade. Ça, c'est le titre retenu par Sud-Ouest aujourd'hui avec une photo de la Garonne qui a débordé hier à Bordeaux. Des crues historiques attendu, nous dit Sud-Ouest, notamment sur le bassin d'Arcachon, où les sols n'épongent plus suffisamment les surplus d'eau.
Bah oui, non, mais bien sûr, il y a par exemple Géant qui nous envoie un message, il dit les quais de Bordeaux, rive gauche inondée, la Réole, quasi inondée. Envoyez-nous, tiens, vos photos, vos vidéos, éventuellement sur notre compte Twitter, on les publiera. Là, pour voir un petit peu quelle est la situation autour
ou
de...
Ou appelez-nous aussi.
Appelez-nous, bien sûr, oui, 0826-300-300, vous pouvez témoigner, n'hésitez pas, mais allez-y sur ces photos et ces vidéos. On les évidemment repostera également sur notre compte Twitter. On continue justement avec aussi Sébastien Bouchereau qui est avec nous, qui est rédacteur en chef du Petit Bleu d'Agen. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
La crue de la Garonne, évidemment en une du jour, bien sûr. Et une situation préoccupante ou pas?
Oui, on considère aujourd'hui que la tendance reste à la hausse sur le Lot-et-Garonne, qui reste donc comme une dizaine de départements du Sud-Ouest en vigilance orange crue inondation, au moins jusqu'à mercredi. Ouais. Donc aujourd'hui, on a encore une montée en puissance des eaux selon la préfecture. Sur le terrain, les pompiers d'ailleurs sont sur le pied de guerre. Ils m'ont communiqué ce matin un bilan. Depuis vendredi 29 janvier, ils ont réalisé 98 interventions, dont 45 reconnaissances, 9 assistances à personne, 25 arbres sur la chaussée, 2 effondrements de route, 3 arbres sur des maisons, 14 domiciles inondés. Hier, le fait le plus saillant, ça reste quand même l'évacuation préventive d'une centaine d'habitants à Fumel, près du Lot. Sont les secteurs de la Garonne, notamment la zone de Tonneins-Marmande et puis le Lot, qui sont touchés de notre département. J'ai quelques chiffres à vous donner pour illustrer un peu cette montée des eaux. Hier, à 18h, la côte de la Garonne à Tonneins, donc en direction de Bordeaux, était à 8,35 m. C'est vraiment haut. Au même moment, à Agen, la côte du fleuve est à 5,10 m. Et ce matin, à 7h, elle est à 6,36 m. Et dimanche, le fleuve était à 3,31 m. C'est-à-dire qu'entre dimanche, 3,31 m, et ce matin, 6,36 m, on a doublé de volume. Donc la montée des eaux est vraiment considérable. Pour rappel, la dernière inondation à Agen date de 1981 et l'eau était montée à 8,40 m. Alors, Aujourd'hui, concrètement, que se passe-t-il? On a une quarantaine de routes qui sont fermées à la circulation en Lot-et-Garonne. D'ailleurs, l'autorité attire l'attention des automobilistes hein, sur les dangers et le nécessaire respect de la signalétique sur les routes qui sont inondées et fermées. On a également un ramassage scolaire qui est interdit sur le réseau routier qui est proche du fleuve. Mmh. Et puis actuellement, on signale qu'il y a des coupures d'électricité en Agenais. Voilà, ouais. Bon, c'est la situation. C'est une situation qui est difficile, évidemment, mais on est sur un territoire qui est soumis, je dirais, historiquement à ce type d'aléa.
Hein. Oui, autour de la Garonne, ouais, c'est vrai. Hein. Ouais.
C'est-à-dire que ici, on voit passer l'eau du massif pyrénéen et puis aussi celle du massif central. D'ailleurs, Agen fut longtemps considérée comme la ville la plus inondée de France. Hein.
C'est vrai ? Ah oui, la plus inondée. Je savais que c'était toute la région autour de la Garonne, évidemment, un lieu d'inondation fort, mais Agen, la ville la plus inondée.
Ah oui, oui, ouais. Oui. Bah, disons qu'il y a eu de grands travaux maintenant d'endiguement
oui.
du fleuve. On n'a plus d'inondation en centre ville depuis 1981, oui. Donc des progrès considérables ont été réalisés, mais pendant des années, les crues du 19e et du 20e siècle sont épiques. Ouais. Vous connaissez, Patrick, l'expression « que d'eau oui. », on l'attribue à de MacMahon visitant Agen à la fin du 19e et constatant les dégâts considérables sur le centre-ville. Ouais. On a eu des grandes inondations en 1930, 1932, dans les années 50 également. Alors là, disons qu'il y a une conjonction qui est un petit peu particulière, parce que c'est assez rare quand même ce type d'épisode sur janvier-février. Donc il y a eu un redout il y a une dizaine de jours, une petite semaine, qui a probablement fait fondre la neige des Pyrénées. Oui. Donc l'eau s'est écoulée en direction de la mer et donc elle passe en bas de chez nous. Idem pour le massif central. On a eu donc des pluies liées à Justine
qui ont tout gonflé,
très
quoi.
Soutenues, ouais. Et puis des sols qui sont saturés.
Bah oui, donc, c'est vrai. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais ce qui explique ça. À Tonneins, on était à plus de 9 mètres hein, là, tout à l'heure. On avait le maire qui était avec nous. Il était un peu inquiet. Alors qu'il y a de la décrue un peu partout, lui, il était un peu inquiet là pour la journée jusqu'à demain, hein, ce que vous disiez, Sébastien Bouchot.
Ils sont sur Tonneins, ils sont toujours un peu dans l'œil du cyclone. Quand même, ils récupèrent l'eau qui vient du Lot. Il y a la confluence, hein, vous savez, le Lot et puis la Garonne se rejoignent, partent en direction de l'estuaire, et donc ils ont des montées plus importantes qu'à Agen. Mais ici, sur Agen, la situation est on surveille de près.
Hein. Ouais, non, mais c'est vrai. Et vous l'avez dit, pourtant, il y a eu énormément de travaux depuis quelques années, mais malgré tout, quand ça monte aussi haut, ça passe par-dessus. Moi, j'avais un ami qui avait acheté une maison à Couture, justement pas très loin d'Agen.
Oui.
Il disait, bon, il y a eu des aménagements de fait, il n'y aura plus d'inondation. Le pauvre, évidemment, l'année d'après, inondation, parce que c'était repassé au-dessus et il fallait aller en barque dans la maison.
Oui.
Merci beaucoup, hein, Sébastien Bouchereau.
C'est
le petit bleu d'Agen. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.
Et 8h49, la suite du Grand Matin. On va revenir sur la vaccination et sur cet examen du projet de loi contre le séparatisme. Vos appels 0826 300 300, et peut-être faut-il faire comme la Hongrie, aller vers des vaccins comme le chinois ou le russe.
Ah oui, alors ça c'est de plus en plus sur la table, hein. C'est les vaccins chinois et russes, parce qu'on est un petit peu débordé, on n'arrive pas véritablement à avoir suffisamment de production. Ça va mettre du temps, Arlette Chabot, hein. Donc c'est vrai qu'on s'interroge aujourd'hui sur ces vaccins venant de Chine et de Russie.
Alors, il faut dire quand même que c'est pas qu'on déteste absolument les Russes ou qu'on se méfie terriblement des Chinois. Il faut juste dire que quand l'Union européenne a ouvert les portes aux candidats vaccins, comme on dit, la Russie, avec son Spoutnik et notamment la Chine avec Sinopharm, n'ont pas voulu déposer de dossier. Ça veut dire être soumis à l'examen, évidemment, de l'Agence européenne du médicament. Donc aujourd'hui, visiblement, ça change. D'abord parce que les Européens sont demandeurs et ils ont effectivement des problèmes de livraison.
D'approvisionnement, de production.
On ne revient pas avec AstraZeneca notamment et la rivalité entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe qu'elle vient de quitter. Mais c'est vrai que apparemment, Angela Merkel a convaincu en tout cas Poutine de soumettre le vaccin russe à cette commission européenne. Et du coup, ça pourrait marcher, évidemment, et peut-être aussi la Chine, qui par ailleurs, russes et chinois, développent, on l'a vu, la diplomatie du vaccin en fournissant à tous ceux qui le demandent. Et en Europe, la Hongrie, oui, c'est comme ça. L'histoire a oublié les relations entre la Hongrie et la Russie. Effectivement, il y a déjà un accord qui a été passé pour la livraison du vaccin russe.
Oui, bon, très bien. Ça vous fait, j'imagine, réagir. Vous nous appelez 0826-300-300. On en reparlera d'ailleurs avec un maire qui sera en direct avec nous tout à l'heure aussi à 9h sur ces problèmes de vaccination. Ouais. Parce qu'il y a des endroits où ça reste infernal. Hein. Donc les gens n'arrivent pas à obtenir, des gens qui ont plus de 75 ou 80 ans et qui n'arrivent pas à obtenir des rendez-vous pour pouvoir se faire vacciner. Et puis je ne vous parle pas aussi du deuxième vaccin où parfois les délais sont assez allongés. Restons peut-être aussi sur l'autre sujet du jour, sur la loi sur le séparatisme. Elisabeth Lévy, alors certains, on entendait, on en parlait tout à l'heure avec Yaël Braun-Pivet, notre invitée présidente de la commission des lois. Certains disent que ça ne va pas assez loin. Il y a un problème par rapport aux religions, quoi qu'il en soit aussi. Quoi.
Alors, il y a deux choses. La première, juste par rapport à ce qu'elle a dit, j'ai trouvé assez décourageant sa réponse sur l'immigration. Et vous savez, j'ai l'impression qu'ils nous refont le même coup qu'avec les frontières pour le Covid. C'est-à-dire, c'est totalement idéologique. L'idée, surtout l'immigration, c'est sacré, c'est pas bien. Donc, de critiquer l'immigration, c'est Marine Le Pen, c'est populiste. À part ça, il y a à peu près 70% des Français dans tous les sondages qui, eux, veulent qu'on la restreigne drastiquement. Mais surtout, l'idée qu'il n'y a aucun rapport entre l'immigration et le séparatisme me paraît assez stupide, parce que, évidemment, ce séparatisme, il est beaucoup le fait de Français, mais plus vous faites venir des gens...
Il y en a beaucoup qui sont sur le territoire depuis longtemps, quoi.
Mais bien sûr, mais plus vous faites entrer de gens que vous ne pourrez pas intégrer, si vous voulez, qui sont culturellement bien plus loin, et... qu'on n'aura absolument pas les moyens d'intégrer, on n'aura pas les moyens de les acculturer à nos mœurs et à notre culture, et bien plus vous rendez les choses compliquées, c'est totalement évident. On a une énorme crise de l'intégration, c'est vraiment le moment, si vous voulez,
c'est vrai. Alors,
moment de continuer les flux. Quoi.
Alors ça peut venir peut-être ailleurs, à un autre moment, dans un autre texte de travailler, puisqu'il y avait eu un texte sur l'immigration. Éric Revel, de votre côté.
Oui, et je dirais un mot peut-être après sur les religions, Patrick, sur votre question qui est
Patrick,
intéressante.
Juste sur les vaccins, ce que disait Arlette tout à l'heure. D'abord, la Chine, on le sait, s'intéresse beaucoup à l'Afrique et à ses terres arables. Donc on voit comment les Chinois vaccinent massivement grâce à leur vaccin en Afrique. Et tout ça, évidemment, n'est pas désuet d'arrière-pensée économique. Hein. C'est l'arme diplomatique et l'arbre économique de la Chine avec son vaccin. Mmh. Et puis quand même, j'aimerais revenir sur une chose. Vous vous souvenez, il y a quelques années, quand Nicolas Bavrez publiait des ouvrages sur le déclin français, certains le suivaient.
La France qui tombe.
Scandale. Oui, la France qui tombe, en disant, ce French bashing, il faut que ça cesse. Mais enfin, quand même, regardez dans quelle situation on est aujourd'hui. La recherche a manqué de moyens. Enfin, on peut dire beaucoup de choses. Mais enfin, on est le seul pays, je sais même pas
parmi
si
les plus importants.
Qui n'a pas été en mesure de développer un vaccin. C'est absolument incroyable. Je ne sais pas si on peut parler de fiasco, mais au pays de Louis Pasteur, voir qu'on n'a pas été capable de développer un vaccin alors que les Anglais l'ont fait, les Américains évidemment l'ont fait, les Russes...
Les Allemands en collaboration. Chinois,
Les Allemands alors qu'on va produire peut-être du vaccin allemand en France. Enfin, on est devant une situation absolument incroyable.
Alors, il y a Sanofi quand même qui devrait travailler dessus.
Oui, Sanofi pour la fin de l'année. Mais quand même, il faut quand même faire ce constat-là. J'espère qu'on en tirera les leçons. J'espère qu'on aura un avenir. Parce que la patrie de Louis Pasteur, qui est la seule parmi les grandes patries dignes de ce nom à ne pas avoir développé un vaccin, c'est un sujet de préoccupation, mais majeur pour moi.
Oui, c'est vrai. On a fait du zigzag sur l'actualité. Oui, allez-y, Elisabeth.
Un mot là-dessus par rapport à ce que disait Eric, ou plus exactement une interrogation, parce que je me demande si en fait c'est un problème de recherche publique, parce que je n'ai pas le sentiment que partout ailleurs ce soit la recherche publique seulement qui ait permis de découvrir les vaccins et d'ailleurs les grandes molécules en général. Donc est-ce qu'il n'y a pas aussi chez nous un problème de mobilisation des fonds privés? Est-ce qu'on peut s'en prendre qu'à l'État sur cette affaire,
mais,
Eric?
Mais Elisabeth, j'irai même plus loin, vous avez raison, c'est un problème de recherche privée, mais ça veut dire quoi? Quand Sanofi, par exemple, se débarrasse de 400 postes de chercheurs en recherche et développement pour mettre tout ça en partie en Chine, mais on est exactement dans le sujet. C'est-à-dire que, jusque et y compris la recherche privée, a évidemment délocalisé ailleurs ses centres de recherche et de développement. Et c'est quand même un sujet majeur. Sanofi en est un exemple, mais vous pouvez les multiplier, ces exemples. Donc aujourd'hui, la recherche publique manque de moyens et la recherche privée s'expatrie ailleurs, en Asie notamment. Et vous vous souvenez des moulinets d'Emmanuel Macron nous expliquant que il y a un an, au début de la pandémie, il faudrait regarder ça de près, relocaliser nos centres de recherche, y compris dans la santé. Ben, on voit bien que c'est pas du tout ce qui se passe et le monde d'après ressemblera à celui d'avant.
Oui, ça c'est vrai. Oui. Bon, alors
Merci Arlette.
On va y revenir tout à l'heure avec le maire de Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, qui sera avec nous là vers 9h05, 9h10 là tout à l'heure. Et puis on va revenir aussi d'un mot quand même aussi sur la loi, le séparatisme et les religions. Avec vous, Elisabeth Lévy, Arlette Chabot et Éric Revel. Et puis vos appels au 0826 300 300. On y revient dans un instant.
Alors, donnez-nous votre avis sur justement cette question loi séparatisme sur Twitter. Il est 8h56.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h03, à la suite du petit déjeuner de l'actu, on revient sur l'examen de ce projet de loi contre le séparatisme avec Arlette Chabot, Elisabeth Lévy et Éric Revel. Et vos appels 0826-300-300.
Avant, évidemment, et puis de retrouver la vaccination, on va faire un point sur la vaccination. On va aller voir sur le terrain comment ça se passe très précisément avec un maire, Arnaud Péricard, qui va être avec nous dans un instant. Alors donc, on l'évoquait tout à l'heure dans notre discussion, le petit déjeuner, Elisabeth Lévy. Sur cette loi contre le séparatisme, certains religieux disent attention, on met tout le monde dans le même panier, grosso modo, et on va réduire nos libertés.
Bah oui, ça nous met en fait face à la quadrature du cercle qu'est cette loi, parce que en fait notre problème c'est le séparatisme islamiste, si vous voulez. Ce ne sont pas d'autres religions, mais au nom de la neutralité de la loi, on est obligé de s'en prendre à tous, ou en tous les cas, c'est comme ça que le voit le gouvernement. On ne désigne pas notre véritable problème, et peut-être que la loi ne peut pas le faire. Hein. Ça me rappelle la loi sur les signes religieux à l'école. On n'a pas fait une loi sur le voile. On a interdit tous les signes religieux. C'est une véritable difficulté, parce qu'en réalité... si vous voulez, je ne sais pas si une loi, dans le fond, peut répondre à notre problème. Hein. Je ne dis pas qu'elle n'est pas pleine de bonne volonté, peut-être d'avancer. Mais en réalité, ce qu'il faudrait faire, c'est, dans le fond, un peu sur le modèle de ce que Napoléon avait fait avec les Juifs, c'est une sorte de pacte entre les musulmans et la République. Voilà ce que nous acceptons, voilà ce que nous acceptons pas. Oui. Sauf que, on voit pas très bien qui parlerait au nom de la France, qui parlerait au nom des musulmans. C'est assez compliqué.
Ça peut-être s'organiser, mais c'est compliqué.
Vous en avez aussi parlé, d'ailleurs. Oui, parce qu'on n'a pas de représentants musulmans, si vous voulez. Aujourd'hui, les représentants officiels de l'islam, en fait, sont totalement décrédibilisés auprès de ceux qu'on appelle les séparatistes, et en particulier la jeunesse.
Arlette Chabot, voilà. sur ce point, difficile à organiser, quoi, à mettre en place ça.
De toute façon, ça fait 30 ans qu'on essaye d'organiser le culte musulman. C'est vrai qu'il n'y a pas d'interlocuteur, donc c'est extrêmement compliqué, difficile. Ce n'est pas la même chose qu'avec la religion juive, évidemment, ou les autres religions. Donc c'est quasiment impossible. Ce qu'il faut, il y a le Conseil français du culte musulman, il y a cette fameuse charte de la laïcité dont on a parlé ici, qui essaye... effectivement d'imposer les gouvernements, même si on sait que trois fédérations qui font partie de ce CFCM n'ont pas signé, notamment les Turcs, qui nous renvoient à d'autres problèmes avec la Turquie, évidemment. Moi, je crois qu'il faut prendre les choses de façon un peu
empirique.
Il y a une loi, peut-être qu'elle va permettre effectivement non pas d'éradiquer ou de faire disparaître l'islam politique, parce qu'il faut trouver les moyens d'arrêter la diffusion de ces théories, de cet islam politique. C'est ça, au fond. On peut fermer des mosquées, il faut les laisser fermer quand, effectivement, elles ont dépassé la loi et pas respecté la loi. Il faut expulser des imams, il faut former des imams qui parlent français, il est formé en France, il faut leur faire signer une charte de la laïcité. Enfin, il y a plein de choses. déjà, si on fait ça, ouais. Ça sera...
C'est une avancée, quoi. C'est ce que vous dites. Voilà. Quoi. Il faut déjà prendre ça.
Après, il y a comment stopper la diffusion de cet islam. Et là, on tombe, par exemple, sur Internet, parce que c'est peut-être sans doute moins l'immigration.
D'un mot, Elisabeth, et ensuite, Eric Revel, et ensuite, on passe...
Une question, comment on fait, si vous voulez, pour que les jeunes qui insultent Mila et qui la menacent de viol parce qu'elle dit des choses qui leur déplaisent sur la religion musulmane, comment on fait pour changer les mentalités? Comment on fait pour changer les têtes? C'est ça le plus compliqué.
C'est vrai, c'est vrai. Après, il y a un travail de terrain. Ouais. Eric Revel, d'un mot.
Oui, bah écoutez, je partage l'avis. C'est-à-dire que nous sommes désarmés, en réalité, si j'ose employer ce mot. Nous sommes désarmés parce qu'on est une démocratie, parce que la République française a mis très haut les couleurs de la laïcité. Mais j'ai trouvé, je vais vous dire, Darmanin plutôt bien dans son rôle. Je vais peut-être vous paraître un peu naïf, un peu versé un peu dans le bisounours, ce qui n'est pas vraiment mon genre. Mais je vais vous dire une chose, c'est que je pense qu'il faut éviter le piège de durcir considérablement ou de modifier les valeurs qui sont les valeurs de la République française, parce qu'on tomberait exactement dans le piège que nous tend l'islam politique. Donc, j'ai trouvé l'argument, de même si ça peut paraître un peu naïf, de renforcement de la laïcité, peut-être le seul rempart crédible. Parce que si on modifiait considérablement, si on continuait à hystériser le débat, ben on tomberait dans le piège que nous tendent, non pas les musulmans, mais l'islam politique. Je pense que Darmanin a eu raison de le souligner. Maintenant, je ne suis pas naïf du tout.
Bon, c'est à suivre, en tout cas. À suivre. Merci Éric Revel, Elisabeth Lévy, Arlette Chabot. Vos appels, vous pouvez continuer aussi d'essayer de nous joindre 0826-300-300 pour prendre la parole. On va s'intéresser, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, à la vaccination, Cécile.
Oui, on va parler de la vaccination et comment se déroule justement cette vaccination avec le Covid à Saint-Germain-en-Laye. On en parle avec le maire, Arnaud Péricard, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour Arnaud Péricard. Ricard, oui, merci d'être avec nous, parce que c'est une illustration avec vous de ce qui se fait sur le terrain. Dans beaucoup d'endroits, Arnaud Péricard, il y a plein de gens qui voudraient aller se faire vacciner et qui n'arrivent pas à avoir de rendez-vous. Et puis, il y a d'autres endroits où on a eu une première quand même vaccination et on se demande quand est-ce qu'on aura le deuxième vaccin. Et puis, les difficultés entre l'État et évidemment aussi les communes, les régions, etc. Comment vous vivez cette situation, vous ?
Alors, on essaye de gérer les contradictions, on essaye de gérer les difficultés. Et surtout, moi, ce qui me marque beaucoup dans cette campagne de vaccination, c'est l'angoisse et le stress des anciens qui viennent se faire vacciner. Ça m'a vraiment marqué. J'ai vu beaucoup. On voit parfois la mort dans les yeux. Je le dis comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'angoisse et de stress. Il y a maintenant une deuxième tranche ou couche de stress qui s'est rajoutée. C'est la peur de ne pas avoir cette deuxième injection, cette deuxième vaccination, et on le sent avec des décalages. On est malheureusement contraint et obligé de décaler parce que le produit se fait rare. On a dû recaler alors d'une semaine parfois, et puis avec des contre-indications quand on vous dit qu'il faut prendre un rendez-vous 6 semaines, 4 semaines, 3 semaines. Donc tout ça, c'est des contraintes logistiques. Donc faut faire face. On sait faire face. C'est pas vraiment difficile, mais le plus dur, c'est vraiment de faire face à cette angoisse et notamment aux dizaines voire centaines de messages que l'on reçoit tous les jours de personnes de plus de 75 ans qui nous disent « je suis prioritaire, j'ai 82 ans, j'ai 85 ans, j'ai des comorbidités, s'il vous plaît, faites-moi vacciner ». Et ça, c'est très dur quand on ne peut pas y répondre.
Et bah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous leur répondez, Arnaud Péricard, quand vous n'avez plus de place sur le tableau de la vaccination, quand vous n'avez pas suffisamment de doses ?
On leur dit qu'il faut attendre. Moi, j'ai 600 doses par semaine. Je ne peux plus, à la fin de cette semaine, faire de primo-injection à partir de la semaine prochaine. À partir de lundi prochain, ce sont des deuxièmes injections. Je ne peux plus prendre de nouvelles personnes à vacciner. Alors, on en est à gérer goutte par goutte. Je vous rappelle qu'on fait maintenant 6 injections par fiole. Quand on nous avait dit qu'il fallait en faire 5, certains infirmiers arrivent à en faire 7. Donc, parfois, on est très heureux de pouvoir faire une 7e injection avec une fiole.
Ah oui, carrément.
Quelqu'un dans la journée. Oui, on en est là. On en est à compter les gouttes.
Oui, c'est ça. Et donc là, vous allez entamer le second, parce qu'il faut faire le rappel, il ne faut pas qu'il y ait un délai quand même trop long. Quoi,
On nous a dit 6 semaines, on avait calé à 3 semaines, on va réussir en décalant à faire 4 semaines, et on commence donc les campagnes de deuxième vaccination à partir de lundi, mais comme il y a un peu moins de vaccins qui arrivent en raison des contingentements, on va être obligé de décaler, moi je pense, 200 personnes la semaine prochaine.
Oui, c'est ça. Et alors, pour le premier vaccin, en revanche, pour redémarrer une nouvelle campagne, campagne auprès des gens qui ne l'ont pas eu. Qu'est-ce qu'on vous dit du côté de l'ARS en fait régionale quoi hein, des services.
On nous dit que les choses devraient aller mieux voilà fin du mois de février courant mars. Donc vous voyez, ça fait longtemps, oui. Ça devient très compliqué aujourd'hui quand vous allez sur les plateformes Doctolib ou autres, vous êtes sur des rendez-vous pas avant le 10 mars, le 15 mars.
Oui, oui,
donc c'est ça devient très compliqué.
Oui, c'est ça. Alors, il y a le AstraZeneca qui pourrait arriver également, sauf que il y a des doutes, c'est-à-dire que sur l'efficacité pour les personnes de plus de 65 ans, c'est ce qu'on a vu à l'étranger, c'est pas certain qu'il soit vraiment très très efficace quoi. Hein.
Je vais vous dire, la vaccination, c'est quelque chose de sérieux. Ouais. Il faut bâtir une trajectoire de confiance. Ouais. Donc ça va du transport avec le taxi, les navettes, ouais. des anciens jusqu'au centre de vaccination. Ça va également dans la relation de confiance qu'on peut avoir avec le vaccin. S'il y a le moindre doute
bien sûr.
Sur un des vaccins, je peux vous dire que cette campagne sera encore plus compliquée. Je préférerais quelque part qu'il n'y ait pas de doute, qu'on continue avec des vaccins qui arrivent dans des proportions peut-être moins importantes, mais que cette trajectoire de confiance, elle soit établie, on va dire, du transport des seniors jusqu'à l'acte d'injection.
Oui. Merci beaucoup Arnaud Péricard d'avoir été avec nous. Hein. C'était une illustration, et ça c'est vrai dans toutes les... Oui, absolument, c'est à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, mais c'est valable partout sur le territoire. On rencontre le même genre de situation. J'avais quelqu'un qui me disait, c'était la même chose autour de Montauban, où il n'arrivait pas à avoir de rendez-vous. Donc c'est assez terrible et angoissant pour ces personnes. La seule chose qu'on peut leur conseiller, c'est de rester un petit peu chez elles, de se protéger en attendant évidemment...
Et que les maires font ce qu'ils peuvent, surtout.
Oui, en attendant que ça arrive. Quoi.
Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, la suite ce matin du Grand Matin Sud Radio, on va s'intéresser aux 20% de personnes surdiplômées, plus de Bac plus 5. Oui. Ce serait la nouvelle fracture sociale, en tout cas. On en parle dans un instant avec la sociologue Monique Dagneau.
Oui, parce que le diplôme détermine évidemment le destin des Bien jeunes, sûr. Mais ça change aussi beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans, 40 ans, quand on avait un Bac plus 5, et les modes de vie qui
font des choix très particuliers.
Oui, oui, très particuliers. Moi, il y a une question en fait derrière aussi quand même, c'est est-ce que notre système d'éducation est toujours bien adapté aux nouvelles évolutions et aux mutations, pas des virus cette fois, mais des métiers. Ça, c'est une autre question. On en parlera ensemble. Allez-y, vous nous appelez 0826 300 300.
On revient dans un instant, 9h14.